Ben.
On parle de l'administration du pays avec les mesures de rigueur lancées par Muitai Brotherson. On va aussi au CESEC qui se réunissent ce matin et on revient sur l'élimination de nos tiquitois. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On commence par cette circulaire qui a jeté un froid dans l'administration.
Oui, un texte publié lundi, signé par le président Muitai Brotherson et qui vise à maîtriser la masse salariale du pays. 5607 postes dans l'administration territoriale, 35 milliards de francs de coûts. Visiblement, c'est trop pour le président du gouvernement qui s'était engagé à réduire les dépenses. La circulaire est donc adressée à tous les ministères. Elle concerne toutes ces administrations. Et le mot d'ordre, Charlie René, c'est de limiter les recrutements.
Et oui, Valdemar, limiter les recrutements, notamment ceux des agents non titulaires, déjà très cadrés par la loi, ils sont désormais gelés par principe, à moins d'obtenir une dérogation particulière de la DGRH ou du ministère de la fonction publique de Vanina Krolla. Mais ça n'est pas tout, les recrutements hors poste, bien utiles pour des remplaçants de fonctionnaires absents, sont aussi gelés s'ils ne sont pas déjà prévus au budget, et surtout les postes libérés après un départ en retraite ne seront pas systématiquement remplacés. La circulaire parle aussi de limiter les indemnités de congé des fonctionnaires, rappelle qu'une refonte des régimes indemnitaires est en cours et annonce de plus grands changements. Une étude a été lancée pour restructurer et redimensionner l'administration du pays. Un projet que le gouvernement veut faire aboutir rapidement, Valdemar.
Merci Charlie René pour ces explications. Alors il faut noter que cette circulaire a déjà fait réagir au sein de l'administration, y compris chez ses dirigeants. Comme le notait la dépêche de Tahiti il y a quelques jours, le directeur de la santé Philippe Biarès s'est dit profondément préoccupé par ce texte avant même sa signature. Il a confié par courrier son inquiétude pour le service de santé et pour la population.
Et la CSTPFO s'inquiète aussi.
Oui, et pas seulement de cette circulaire. La centrale, dirigée par Patrick Galnon, est bien sûr très vigilante aux réductions d'effectifs envisagées par l'exécutif. Économiser les moyens, pourquoi pas? Mais le syndicat note qu'aucune solution n'est avancée aujourd'hui pour garantir le maintien du niveau de service public pour les Polynésiens, ni d'ailleurs pour assurer l'attractivité de la fonction publique territoriale qui est déjà en berne. À CSTPFO, on parle même d'une attitude anti-fonctionnaire de la part du nouveau gouvernement.
On a l'impression, ou même une certitude, que on méprise un peu les fonctionnaires du pays. Ça se sent, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'équipement. Des gens qui veulent aussi travailler, mais qu'il faut qu'ils aient des directives précises et qu'au niveau de la fonction publique, on essaie de faire en sorte que notre pays marche. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans l'attente.
Patrick Galnon, le secrétaire général de la CSTPFO, premier syndicat du pays dans le privé, comme dans la fonction publique territoriale d'ailleurs. Alors il faut noter qu'une rencontre a été organisée hier soir avec Muitai Brotherson et certains de ses ministres, mais elle n'a visiblement pas convaincu le syndicaliste. Il dénonce le flottement, le flou artistique sur les réformes de fond que veut mener le gouvernement, accusé de multiplier les annonces mais de ne pas prendre de décision.
On nous parle de réformes et puis lorsqu'on voit les autorités de ces pays, ils nous demandent quelles sont vos idées. On a des idées précise sur comment faire des économies, par exemple sur les médicaments, les PPN. En fait, la grande problématique qu'on se pose, c'est une politique publique, que ce soit en matière de santé, en matière d'économie, en matière de fiscalité, que ça soit beaucoup plus précis et bien clair, que tout le monde comprenne où on veut aller.
Voilà Patrick Galnon qui appelle les fonctionnaires territoriaux et les salariés du privé à se tenir prêts, à se mobiliser dans les mois à venir. Si les grandes réformes côté fiscalité, côté PSG ou économie ne sont pas lancées, c'est dans la rue qu'il faudra défendre le service public, le pouvoir d'achat mais aussi le système de santé. Le message a le mérite d'être clair. Côté calendrier, le 1er mai, les épreuves des Jeux Olympiques pourraient être des moments stratégiques de mobilisation.
Au CESEC, on rêve à un système social plus juste.
Mayana Bambridge a présenté ce matin une proposition d'autosaisine sur le thème « La Polynésie, une société à deux vitesses ». La conseillère devant le président du pays a souligné que la dernière étude sur le sujet de la pauvreté date de 2009, mais aussi les nombreux rapports qui ont depuis constaté le creusement des inégalités et l'inadaptation des politiques publiques. Caroline Perdry, vous êtes sur place.
Oui, Valdemar, et la proposition a été adoptée par 42 voix pour et une abstention. Mayana Bambridge veut entendre tous les services du pays et de l'État et elle insiste sur l'importance de l'éducation pour résorber ces inégalités. Mais les prises de parole ont montré qu'il y a encore du travail. Ça a été le cas lorsqu'un représentant du patronat s'est étonné de ne pas voir les acteurs économiques dans la liste des invités prévus et à qui il a fallu rappeler que les acteurs économiques siège au CESEC. Patrick Galnon a déclaré « Nous sommes riches, on va parler des pauvres, j'espère qu'on va inviter des pauvres ». Et on a entendu plusieurs conseillers tenter de relativiser le problème et se plaindre surtout de la pauvreté qui leur saute aux yeux dans la rue. Cette autosaisine sur la pauvreté au Fénois demandera au moins 15 semaines de travail, dit Mayana Bambridge.
Merci Caroline Perdry, ce matin depuis le CESEC où la séance plénière se poursuit en ce moment.
On poursuit ce journal à Moréa puisqu'on revient sur le projet du groupe VAN pour la plage de Témé.
Oui, pour la fédération Tahayoti à Moréa, l'objectif n'a pas changé. Garantir l'accès et la jouissance publique des 550 mètres de cette grande plage, très fréquentée même si elle est bordée jusqu'aux limites de l'eau par un domaine privé. Mais la rencontre mercredi dernier avec Moetei Brotherson et Eliane Tevahitua a jeté le chaud et le froid. Le gouvernement a certes confirmé avoir lancé une procédure pour exercer ses droits sur l'emprise réservée de 3 hectares qui bordent la grande plage, ce qui constituerait d'ailleurs une victoire pour les militants associatifs, pour qui l'acquisition publique de ces 3 hectares de foncier côtier est la seule garantie à la pérennisation de la plage publique de Témé. Mais pour l'exécutif, il n'est pas question de passer à l'acte avant d'avoir étudié les contre-propositions du groupe VAN, propriétaire du domaine où il porte un important projet hôtelier. Ces contre-propositions, elles concernent un développement hôtelier en même temps qu'un aménagement public de la plage sur une partie de sa longueur. C'est ce que confirme Eliane Tevahitua, qui se félicite de la rencontre avec la fédération, mais qui indique que les positions de toutes les parties doivent être prises en compte.
Ça a été l'occasion de les rencontrer avec le président, de manière à entendre leurs doléances. Mais il est évident qu'on va aussi rencontrer le promoteur qui envisage un projet hôtelier. On va aussi entendre sa version des choses, le projet hôtelier qu'il veut mettre en place. Donc en fonction de toutes ces données, ensuite le gouvernement se positionnera.
L'acquisition de l'emprise réservée serait donc, d'après la vice-présidente, toujours d'actualité, mais visiblement pas un passage obligé. Le groupe VAN aurait notamment proposé la mise à disposition d'une partie de son domaine pour permettre à la mairie de Moréa ou au pays de lancer des aménagements publics. Car la mairie est elle aussi très active dans ce dossier. Ses responsables ont présenté en novembre un projet de réaménagement de la plage, avec parc public, nouvelles routes d'accès le long de l'aéroport, phare poté, parking, équipement sportif, emplacement de vente de fruits et légumes et sanitaires. Un plan qui a été ouvertement rejeté par la fédération d'associations. Les militants y voient en effet des coûts inconsidérés et l'abandon d'une majeure partie de la plage actuelle au développement du privé. Ils dénoncent donc la défense des intérêts du groupe VAN. En face, les défenseurs du projet plaident eux pour le développement économique et de l'emploi dans la zone. Mais cet argument est vite balayé par Alain Bonneau, le président de l'association des habitants de Témé et porte-parole de la fédération Tahayoti à Moréa.
Cette plage, économiquement déjà, elle génère des emplois, serait-ce que tous les gens qui viennent à Moréa, c'est de l'argent dans les transports, dans les navettes maritimes, dans les locations de véhicules, dans les Airbnb de la place, au restaurant, dans les magasins. Donc le fait de concentrer cette plage à une seule personne, forcément, tous les autres acteurs économiques de l'île vont en pâtir.
Alain Bonneau, comme les autres responsables de la fédération, se dit prêt à débattre publiquement du projet avec le propriétaire, la mairie et le pays. Mais pour l'instant, c'est en cercle plus restreint que le gouvernement veut travailler sa décision. À la vice-présidente, où on rappelle les grandes ambitions affichées par l'exécutif sur le développement touristique, on explique qu'une rencontre avec le groupe VAN va être programmée dans les semaines à venir.
En mer, l'État annonce une montée en puissance de ses actions cette année.
Le OCR et le commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie ont présenté le bilan 2023 de l'état de l'action en mer, qui a suivi davantage de navires et mené plus d'opérations de sauvetage. C'est le premier motif de satisfaction. Et le second concerne la surveillance des pêches qui s'est intensifiée en 2023. La posture française est vécue par les navires étrangers comme dissuasive, c'est ce que dit le haut commissaire. Il annonce que les heures de vol et de mer consacrées à la surveillance pourront bientôt être doublées.
La protection de notre zone de pêche est l'une des priorités de l'action de l'État en mer. Nous allons d'ailleurs renouveler nos moyens très fortement puisque le gardien va être remplacé par 2 Falcon 50 et parce que le patrouilleur actuel va être remplacé par 2 autres patrouilleurs plus efficaces qui vont plus loin, qui peuvent faire voler des drones la nuit. Donc c'est un renforcement considérable de nos moyens. Je rappelle qu'il n'y a pas eu d'action de pêche illégale dans notre ZEE depuis une quinzaine d'années. Donc nous sommes efficaces et ça se sait chez les flottes étrangères.
Et l'État veut aller plus loin avec la volonté d'aller dans les ZEE des pays étrangers et d'obtenir l'autorisation d'aller vérifier les poissons dans leur cale. Et c'est aussi une manière pour la France, dans le cadre de la stratégie Indo-Pacifique, de jouer la bienveillance et d'offrir des moyens de protection aux pays étrangers, selon le OCR Eric Spitz. Un accord se dessine d'ailleurs déjà avec 3 pays du Pacifique, c'est ce qu'explique le contre-amiral Dandigné.
On est sur une lettre d'intention pour travailler ensemble, la France avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec les Fidji et avec les Tonga. C'est le début d'un travail pour mettre en place des accords bilatéraux pour permettre, quand on va dans les EDE de ces pays-là, on embarque un agent contrôleur des Fidji, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ou des Tonga, qui lui va pouvoir mener un contrôle beaucoup plus approfondi et beaucoup plus efficace que ce que nous avons le droit de faire aujourd'hui.
Voilà, et en revanche, l'État se dit attentif à la position des pays de la zone sur un autre sujet, celui de l'exploitation des fonds marins, et même un peu inquiet. Si la France et la Polynésie sont d'accord pour n'autoriser que l'exploration à des fins scientifiques, ce n'est pas le cas par exemple des îles Cook, qui depuis plusieurs années tablent sur l'exploitation des grands fonds et ont déjà accordé plusieurs licences d'exploration à des sociétés étrangères, dont une avec qui le pays est partenaire.
Après la mer, les airs, puisque Air Tahiti vient d'annoncer une commande.
La commande d'un nouvel ATR 600, déjà propriétaire de 8 de ses avions et locatrice d'un autre jusqu'en 2025, la compagnie vient de signer le contrat d'achat au salon aéronautique de Singapour. L'avion devrait arriver en fin d'année sur les tarmacs polynésiens. A noter que Air Tahiti possède également deux ATR 442-600 dans sa flotte, la compagnie qui commande des avions aux constructeurs franco-italiens depuis maintenant 38 ans.
Du sport pour finir, pas de demi-finale pour les Tiquitois.
Oui, déception pour l'équipe tahitienne de beach soccer, battue ce matin par l'Italie aux portes du dernier carré de la Coupe du Monde à Dubaï. Alors tout allait pourtant bien commencer hein, pour les joueurs de Teva Zaveroni avec deux buts marqués rapidement par Eimanu Tayarui et Tamatoa Tetaoira. Mais la réduction du score de Marco Giordani, auteur d'un lob audacieux à 40 secondes de la fin du premier tiers-temps, a remis les Italiens dans le match. Mieux organisés et disciplinés, plus généreux offensivement, les Italiens ont ensuite parfaitement tenu les quelques offensives tahitiennes. Les Tiquitoa, coupables de trop d'erreurs en défense, n'ont ensuite pas pu empêcher l'égalisation adverse dans le deuxième tiers-temps, avant de prendre l'eau dans le troisième avec trois nouveaux buts encaissés, dont deux dans les trois dernières minutes de la rencontre, donc pour finalement s'incliner 5-2. Le capitaine Reiman Ali Funkui était sonné ce matin à la sortie du terrain. Il répondait au micro de la FIFA.
Tout était parfait au début et après on s'est relâché, je sais pas pourquoi, franchement je comprends pas. On dominait petit à petit, on a commencé à paniquer, à ne plus jouer notre jeu et après voilà, ça pécache.